L'évangile de Marc, chapitre 10, nous lirons les versets 1 à 12. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau près de lui, et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, donc de la divorcer. Il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et Jésus cite Genèse chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Voilà ce que Jésus répond aux pharisiens par rapport à leur commentaire sur le divorce. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Aujourd'hui en France, il y a en moyenne entre 120 000 et 130 000 divorces chaque année. 130 000... À peu près pour l'année 2012 ou 2013, c'est la dernière année pour laquelle nous avons des statistiques. 130 000 foyers brisés, 130 000 promesses qui avaient commencé dans l'amour, n'est-ce pas, dans la joie avec une fête et qui finissent par la déception. Souvent la colère, l'amertume, le brisement. Les divorces représentent un point tournant, mauvais et permanent dans la vie des enfants. Je peux vous citer des noms que je connais, des adultes de mon âge, 50 ans et plus, qui vous diraient sans hésitation, que leur vie a chaviré au moment du divorce de leurs parents et que ça les a marqués et traumatisés pour le reste de leur vie et laissé des séquelles profondes. Le divorce n'est pas un jeu. Les lois en France et dans d'autres pays d'Occident rendent de plus en plus le divorce facile. Vous le savez. Vous savez que on a eu une réforme il y a quelques années de la loi de divorce en France et avant cela, dans beaucoup de pays maintenant, le divorce par consentement mutuel est extrêmement facile. C'est une forme de divorce sans faute, on dit. Et donc, il faut simplement aller signaler qu'on ne veut plus être marié. Donc, en promulguant de telles lois, les nations occidentales ont changé la définition même du mariage. Parce que dans ces pays, le mariage devient une relation qu'on peut rompre simplement parce qu'on le veut. Or, ce n'est pas du tout ça le mariage, et selon la Bible, et nous allons voir sous cela. Mais nous voyons que nous sommes devant un sujet d'actualité, et d'actualité au temps de Jésus aussi. Parce que déjà, au jour de Jésus, et 1500 ans avant, au jour de Moïse, parce que Jésus renvoie les pharisiens aux écrits de Moïse, déjà au temps de Moïse, le divorce est un sujet d'actualité parce que Moïse écrit des choses là-dessus dans l'Ancien Testament et on discute ces choses au temps de Jésus. C'est une vieille histoire, notre incapacité humaine de garder une promesse que nous pensions tous lorsque nous la faisions, tout couple est convaincu que le mariage est une affaire d'amour qui va jamais cesser. N'est-ce pas? C'est dingue. Mais, un peu de contexte pour le temps de Jésus, parce que nous voulons comprendre et nous mettre dans le bain. À l'époque du 1er siècle, dans la loi juive et la loi romaine, parce qu'on est dans l'Empire romain, le divorce existe bel et bien, mais le divorce est un peu différent. Parce que pour divorcer, selon la loi juive et selon la loi romaine, on n'a pas besoin de tierce personne. On n'a pas besoin du maire, on n'a pas besoin d'une autorité quelconque en dehors du couple. Le divorce se passe simplement entre le couple, c'est tout. Il suffit de signaler l'intention, et si on suit la loi de Moïse, de donner un certificat de divorce. C'est tout. Ça se passait comme ça. Et dans la loi romaine et dans la loi juive, il est possible que l'homme répudie sa femme ou que la femme, divorce son mari. Si vous avez envie de poursuivre ça un peu, pour ce qui est de la loi de l'Ancien Testament, le fait que la femme est dans une situation égale, vous pouvez regarder Deutéronome 21, 10 à 14 et Exode 21, 7 à 11. Alors, il y avait un débat entre les Juifs depuis des générations. Et ce débat faisait rage au jour de Jésus. Le débat concernait le passage que les pharisiens vont citer à Jésus lorsqu'il leur demande « Qu'est-ce que Moïse vous a enseigné ?» Ils vont tout de suite au passage débattu, disputé. Et nous allons lire ce passage ensemble parce qu'il se trouve dans Deutéronome, chapitre 24 et les versets 1 à 4. Je suis en train de vous donner le contexte, d'accord? Et ensuite on va essayer de comprendre. Dans Deutéronome, c'est le cinquième livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et nous sommes au 24e chapitre. J'aurais bien voulu vous lire cela dans le texte de la version de la Tob, qui donne une traduction parfaite. Je vais peut-être vous donner l'idée de la traduction du Tob en lisant la traduction de la colombe que j'ai devant moi. Donc je lis au verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, la Tob dit, plus exactement, si un homme prend et épouse une femme. Donc c'est une condition, une hypothèse qui est posée. D'accord? Mais en français, lorsqu'un homme aura pris, c'est la même chose. On pose une situation. Mais c'est un peu plus clair dans la Tob. Donc, qui viendra à ne plus obtenir sa faveur. Donc la femme n'obtient plus sa faveur. Parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. Alors en hébreu, littéralement, c'est quelque chose de nu. Quelque chose de nu, dénudé. La nudité donne l'idée de la honte. Donc certaines versions françaises de la Bible disent « lorsqu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux ». D'accord ? Il écrira pour elle une lettre de divorce une protection pour elle, parce que cette lettre établit bel et bien son statut. Après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui. Alors, dans la taupe, tout est si. Et si elle sort de chez lui, d'accord, en fait, en hébreu, il y a trois mots de conditionnel qui sont posés. Si un homme prend une femme, et si cela arrive, et si cela arrive, et c'est seulement au dernier verset qu'on a une partie qui est affirmative. Donc, nous sommes toujours dans le si. Si elle sort de chez lui, si elle s'en va et... Oui, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme, oui, c'est plutôt le deuxième si, excusez-moi, si ce dernier homme cesse de l'aimer, donc le deuxième mari de la femme cesse de l'aimer, s'il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de la maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une horreur devant l'Éternel et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voilà, donc le débat ici concerne la petite phrase « s'il trouve en elle quelque chose d'inconvenant ». Je vais expliquer un peu plus le texte de ce passage tout à l'heure. Mais l'école de Shammai, le rabbin Shammai, interprétait cette phrase « quelque chose d'inconvenant » ou « quelque chose de honteux » de cette manière. Dans la Mishnah, nous lisons « Un homme ne peut pas divorcer sa femme à moins qu'il ait trouvé quelque chose de nu en elle, car il est écrit, car il a trouvé en elle une indécence en quelque chose. » Et l'accent est mis sur une chose indécente, une chose honteuse. Donc, cette école de pensée rabbinique, c'est ça, rabbinique, interprète ça comme étant... une clause qui est un peu exigeante. On peut pas divorcer sa femme pour n'importe quoi, mais il faut quelque chose de vraiment scandaleux ou impossible ou indécent. L'école de Hillel disait qu'un homme pouvait, selon ce passage, divorcer sa femme même si elle ratait un plat un soir, même si le plat du soir n'était pas bien. Et dans un des écrits, parce qu'il aura trouvé quelque chose d'inconvenant en elle. Et le rabbin Akaba dit que même s'il a trouvé une autre plus belle, car il est écrit, car elle n'a plus trouvé faveur à ses yeux. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est cette école de pensée était plus libérale. Maintenant, il faut dire que probablement cette école est plus proche à la bonne interprétation de Deutéronome 24. Oui, parce que si vous regardez le passage est complètement subjectif. Regardez bien. Donc, si un homme a pris et épouse une femme et qui vient ne plus obtenir sa faveur. C'est complètement subjectif. C'est lui qui... Ça dépend de lui. Et encore plus dans la suite, le verset 3, au sujet du deuxième mari, « Si ce dernier homme cesse de l'aimer. » Cesse de l'aimer. Voilà. Voilà, c'est donc probablement l'école de Hillel qui comprend la situation qui est posée là, dans le livre de Deutéronome. Ok, donc maintenant je vais vous j'espère, à travers les paroles de notre Seigneur, vous dénouer ça tout à l'heure. Mais je laisse ça pour que vous puissiez comprendre ce qui trotte dans la tête des pharisiens lorsqu'ils viennent à Jésus. Il y a tout un débat derrière qui fait rage. Et ils veulent tendre un piège à Jésus. Alors maintenant, ça c'est l'introduction. Et nous arrivons donc à ce premier piège, ce premier point, un piège tendu à Jésus. Ok, le premier piège, ça va être dur ce sermon. Ok, donc nous lisons, si vous revenez dans l'évangile de Marc, nous lisons au début du passage, Marc nous relate dans le verset 2 que les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, pour le tester, et on dira même plus fort, pour le faire piéger. Donc, il lui demande, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier ou de divorcer sa femme? Alors, les pharisiens sont comme ça, et les gens avec Jésus sont souvent comme ça. Je rencontre la même réaction souvent quand on apporte l'évangile aux gens. Ils vous répondent parfois en essayant de trouver une situation qui est tellement difficile et complexe que tu vas pas pouvoir répondre. Comment est-ce que ton enseignement peut marcher vis-à-vis de ça alors? Et donc, ce n'est pas une question sincère. La personne n'est pas en recherche de la vérité. C'est terrible à dire. Mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout en recherche de la vérité. Ils veulent simplement piéger et trouver une situation où il semble que l'enseignement du Christ ne pourra plus marcher. Il est aussi possible que les pharisiens aient voulu causer des problèmes pour Jésus parce que rappelons-nous que Jean-Baptiste est emprisonné et pourquoi en ce moment ? Parce qu'il a reproché au roi Hérode d'avoir épousé quelqu'un qui était la femme d'un autre. Et si on peut mettre Jésus dans le bain avec des proclamations publiques dans le sens de Jean-Baptiste très fortement, peut-être on peut mettre fin à cette carrière de Jésus. Alors je spécule un peu, mais je ne pense pas être loin de la vérité. Nous abordons le point 2. La manière dont Jésus répond au piège. Jésus fait trois choses, si vous regardez. D'abord, il renvoie la question à ses adversaires. Regardez bien. Il lui pose cette question. Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Jésus, verset 3, il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?» C'est vraiment... Pour moi, c'est fascinant de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Les pharisiens veulent mettre Jésus dans la place de celui qui est interrogé. Jésus est donc supposé être celui qui est éprouvé, celui qui doit maintenant se mettre sur la défensive. Mais Jésus renvoie la question à eux. Qu'est-ce qui vous a commandé, Moïse? Maintenant, c'est eux qui sont interrogés par Jésus. C'est eux qui doivent, et Jésus fait ça parce que il veut mettre sur Jésus une responsabilité qui n'est pas la tienne. Ils veulent que Jésus leur dise des choses que eux, ils sont responsables de savoir déjà. Ils sont responsables, ce sont des responsables religieux. Vous ne savez pas. Attendez, ce n'est pas ma responsabilité de vous donner cette réponse. Moi, je veux déjà savoir si vous avez pris vos responsabilités, si vous avez été sérieux par rapport aux Écritures. Qu'est-ce qui vous a commandé, Moïse? Et donc, maintenant, qui est interrogé? Qui est à l'épreuve? Qui est éprouvé? Jésus renverse la situation et maintenant, les pharisiens doivent répondre. Est-ce que nous connaissons la Bible? Est-ce que nous connaissons les Écritures? Est-ce que nous les interprétons bien? Et c'est Jésus qui va juger et évaluer les pharisiens. Tout change par cette simple question. Maintenant, Jésus, et je suis au point B sur le point 2 de votre fiche, il corrige, Jésus corrige la mauvaise manière dont ses adversaires manient et interprètent les Écritures. Regardez maintenant, Jésus les renvoie aux Écritures, qu'est-ce qu'il vous a commandé Moïse? Et donc les pharisiens vont aller tout de suite à ce passage débattu de Deutéronome 24. Je cite, je lis le verset 4. « Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. » Ça, c'est ils sont en train de faire allusion à Deutéronome 24, car c'est le passage où cela est promulgué dans l'Ancien Testament. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et maintenant Jésus va aller aux écrits de Moïse, mais à un autre endroit. C'est pas Deutéronome 24 qui intéresse Jésus, c'est un autre passage qui est plus pertinent. Il dit, c'est pourquoi, citant Moïse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux époux deviendront une seule chair. Et Jésus interprète le passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Jésus, dans un premier temps, corrige les pharisiens vis-à-vis de Deutéronome 24. Parce que les pharisiens, et là je vais vous aider avec ce passage qui vous a fait rigoler tout à l'heure et questionner aussi, parce que les pharisiens des deux camps, Shammai et Hillel, présument faussement que ce passage est donné par Dieu pour donner un fondement pour le divorce, pour légitimer le divorce. Mais Jésus dit ceci, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Et donc, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que Jésus dit que Moïse a, ou que Dieu a permis cela. Le mot de permission. Ok? Je vais juste vous renvoyer à... Ne tournez pas parce que j'y suis déjà. Voilà. Oui. Matthieu 19 et verset 8. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ainsi de suite. Donc Matthieu cite de manière plus détaillée ce que Marc résume un peu. Alors, donc ça veut dire ceci. Jésus est en train de dire, vous avez mal compris Deutéronome 24. Vous pensez que Dieu est en train de dire, voilà, je promulgue le divorce et je vous explique comment le faire. Non, ce passage ne dit pas ça. Ce passage dit, s'il y a un homme qui a épousé une femme, et s'il l'a répudiée, et si ceci, et si cela, il faut que ce soit réglementé de cette façon. En d'autres termes, Deutéronome 24 est en train de prendre une situation qui existe déjà. Les hommes, à cause de leur dureté de cœur, même en Israël, au jour de Moïse, sont déjà en train de se divorcer, sans que Dieu dise un mot là-dessus. Et il est impossible, à cause de notre dureté de cœur, imaginez de mettre une loi qui interdit le divorce en France. Les hommes sont tellement mauvais, il y a tellement de centaines, de dizaines de milliers de couples qui insistent, nous n'allons pas plus vivre ensemble. Tu ne peux pas gérer la situation, c'est impossible. Il faut gérer ça pour le moindre mal. Tu ne peux pas effacer le mal de divorce, c'est là. Même si tu pouvais faire en sorte que deux conjoints restent dans la même maison, elles vont dormir dans des chambres séparées elles vont plus se parler et ça va être une guerre froide, le divorce sera là quand même. Donc, comment faire? Alors, dans cette situation qui existe déjà, Deutéronome dit, si un homme répudie sa femme, à cause de la dureté de son cœur, moi je veux que vous le fassiez comme ceci. Il faut lui donner à cette femme un certificat de divorce, numéro 1, pour que son statut soit clair. Parce que si c'est pas clair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la ville, elle cherche, ah, tu es la femme de, je suis plus la femme de, tu ne peux pas parce que tu appartiens à, je suis, vous voyez, ça clarifie sa situation. Deuxièmement, si elle épouse un deuxième mari et il meurt ou bien il l'en renvoie, le premier mari ne peut pas la reprendre. Pourquoi? C'est pour éviter une sorte d'échangisme. Vous savez ce que c'est? L'échangisme, c'est lorsque deux hommes échangent des femmes. Ça existe, même des couples qui font ça. Hein? En anglais, on appelle ça « wife swapping », donc échanger des femmes. Donc, c'est pour éviter la situation où tu peux renvoyer ta femme un moment parce que tu sais que tu peux la reprendre après. Parce que tu veux échanger, un nouvel modèle est sorti, c'est comme les voitures, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait chez l'homme lorsqu'il sait que s'il répudie sa femme, c'est pour toujours? Ah, ça lui fait réfléchir avant de le faire. Ça rend la situation beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse. Et il ne peut pas jouer avec elle comme un article d'échange. D'accord? Vous comprenez le sens de Deutéronome 24. Mais au lieu de rendre légitime le divorce, Deutéronome 24 est en train de limiter les situations dans lesquelles on pourra envisager le divorce. Et en train d'encadrer ça pour que ça ne part pas dans tous les sens. Ça va? Donc, c'est comme ceci, si je peux bien vous expliquer. Voilà, je tombe un jour sur une brochure publiée par le gouvernement français. Et ça existe, parce que j'en ai vu. Une brochure qui explique aux gens qui sont devenus addicts de drogue, héroïne, d'autres drogues. Cette brochure explique comment s'en sortir et qui consulter. Quelles agences gouvernementales existent pour aider les toxicomanes. D'accord? Alors, il y a toutes sortes de choses à faire. Est-ce que ça légitime la prise de drogue? Est-ce que cette brochure, puisqu'il me parle, il me dit comment faire, comment m'en sortir, si je suis addict, ça veut dire que c'est légitime d'être addict? Loin de là! Ça prend une situation qui existe déjà, qu'on peut pas arrêter à cause de la dureté de cœur des gens, et ça essaie de le réglementer, de le soigner, de le gérer au mieux. D'accord? C'est ça Deutéronome. Est-ce que la prise de drogue est contre la loi française? Complètement. Est-ce que le divorce est contre la volonté de Dieu? Complètement. Parfois, on permet quelque chose parce que c'est le moindre mal. On ne peut pas gérer. Les gens sont déjà divorcés. Dans le cœur et dans les faits. Leur donner le papier... C'est une manière de gérer ça et parfois de protéger les parties. Donc, Jésus refuse catégoriquement les pharisiens qui veulent dire que Dieu commande et institue le divorce. Dieu n'institue pas le divorce. Dieu a institué le mariage permanent. Les hommes sont en train de divorcer et Dieu réglemente ça au mieux. La phrase clé, on va continuer. D'accord, ok, nous avons fait face à cette correction des pharisiens, parce que, comme beaucoup de gens, ils interprètent un passage biblique très mal. Très mal. Et ils adoptent une pensée qui est complètement contraire à Dieu parce qu'ils n'ont pas compris le passage. Nous arrivons au point 2C. Jésus dirige ses adversaires vers le passage biblique et vers la vérité pertinente pour cette situation. Nous lisons les versets 6 à 9. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ok. On va aller très rapidement sur ce sous-point. Donc, Jésus dit, « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Donc, avant que le péché existe, avant que la dureté de cœur de l'homme, avant que les gens aient le désir de divorcer, c'est au début. Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, citation du livre de Genèse, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme, et voilà la phrase clé, que l'homme ne sépare donc pas, parlons du divorce, du couple, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ce passage? Le mariage. Dieu unit un homme et une femme dans le mariage. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas, mais l'homme fait? L'homme sépare. Donc, Jésus montre bien, n'est-ce pas, la situation. Le divorce, Dieu n'a pas un droit là-dedans. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, Jésus renvoie ses interlocuteurs au passage des Écritures qui est le plus pertinent. Et remarquez bien que Jésus ne parle pas du divorce en répondant aux pharisiens. Il parle uniquement du mariage. Parce que ce qui intéresse à Jésus, la question, mettez-vous dans la peau des pharisiens. Les pharisiens veulent savoir comment est-ce que je peux le plus facilement divorcer sans violer pourtant la lettre de la loi de Moïse? Ou jusqu'où est-ce que je peux aller sans être coupable d'avoir, n'est-ce pas, on est comme ça, hein? On veut savoir, moi je veux aller jusqu'au bord de la falaise sans tomber, n'est-ce pas? Au lieu de dire, moi je m'approche pas de cette falaise. Voilà. Donc, mais Jésus a un souci complètement autre. Jésus ne répond pas, vous pouvez aller jusque là et c'est toujours ok. Jésus, son souci, c'est de préserver et de promouvoir le mariage comme ce que Dieu a voulu au commencement. Ce qui intéresse à Jésus, c'est quel était le plan merveilleux de Dieu au début, qui n'a pas changé, chers amis. Le plan de Dieu pour l'homme et la femme est toujours le même. Il est formidable. Le mariage, une union, une alliance d'amour permanent est formidable. Qui ne se brise pas, mais qui s'intensifie au fil du temps. Et rappelez-vous ceci. Quand Genèse 2 dit que l'homme et la femme s'attachera et deviendront une seule chair, il n'y a rien qui les sépare pour le moment. Parce que la mort n'existe pas. La mort ne devrait pas exister. N'est-ce pas? Nous avons en vue au début un mariage immortel. C'est fou ça. Bien. Ok, nous arrivons au point 3. Jésus arrive à la maison et les disciples veulent en savoir plus. Et nous lisons donc au verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, et tout ça c'est un résumé évidemment, c'est pas toute la conversation. Il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première épouse. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ça veut dire que, ordinairement, lorsqu'il y a divorce, 4 personnes sont amenées à commettre un adultère. Le couple originel, chaque membre se mariant à 2 autres personnes qui, eux, épousent quelqu'un qui n'était pas à eux dans le plan de Dieu. Donc vous avez quatre personnes qui sont amenées à violer le plan de Dieu pour un couple qui reste ensemble dans l'amour pour toujours. Et vous savez que quand, ordinairement, quand quelqu'un divorce, c'est pas pour rester seul. C'est pas pour rester seul. Je dis ordinairement. Parfois, cela arrive comme ça. Mais quand un homme répudie sa femme, attendez un an ou deux. Vous verrez. S'il lui est possible, il aura soit d'autres femmes, soit il y a des femmes avec qui il serait sans les épouser. Maintenant, Jésus explique deux choses dont nous avons une seule dans le passage de Marc. Donc, c'est pour ça que je vais vous lire la version de Matthieu, parce que Matthieu donne un autre détail. Un autre détail. Verset 9 du chapitre 19 de Matthieu. « Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre commet un adultère. » Ça va? Le mot « infidélité » en grec c'est « porneia ». Ce mot signifie n'importe quel acte, acte sexuel illégitime. Soit un homme marié a le sexe avec une femme qui n'est pas sa femme, ou bien l'homosexualité, ou bien toutes sortes de choses qui ne sont pas la relation sexuelle normale du mariage. D'accord? Voilà. Donc, en mettant ces deux choses ensemble, nous voyons qu'à la maison, Jésus explique deux choses aux disciples. Numéro 1, le divorce légitime, parce qu'il y a un divorce légitime, Jésus dit que le divorce amène à l'adultère, sauf dans un cas, sauf pour cause d'infidélité. On peut divorcer lorsque son mari a été infidèle ou sa femme a été infidèle. Ce divorce-là est légitime aux yeux de Dieu. C'est une réponse juste à un acte qui a rompu le mariage, cette infidélité. Ok, ce n'est pas la personne qui divorce qui rompt le mariage, c'est la personne qui a été infidèle, qui a porté un coup tellement grave, tellement mortel au lien où les deux deviennent une. Et il va aller devenir un avec une autre personne que c'est cause légitime de divorce. Ça va? Donc Jésus enseigne cela dans un premier temps. Alors, j'ouvre une petite parenthèse et puis je vais vous dire la deuxième chose que Jésus enseigne et puis on va boucler ça avec un autre détail. Ça va? Je sais que j'ai été un peu long, mais la question est un peu difficile. Ok, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que Marc ne mentionne pas cette exception pour l'infidélité? Lorsqu'on lit Marc, on a l'impression qu'on ne peut pas divorcer, point final. Celui qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, a commis un adultère, et si la femme répudie son mari, et on épouse un autre. Okay. Ça semble être différent. Sauf que les lecteurs de l'évangile de Marc l'auraient pris pour acquis, sans doute, que l'adultère est une cause légitime pour le divorce. Je vous donne deux raisons pour cela. Matthieu va le mentionner explicitement parce qu'il écrit aux Juifs. Et il dit que Jésus, que les pharisiens avaient demandé plus exactement, est-ce que l'homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif, verset 3 du verset 19 de Matthieu. Donc, puisqu'il a expliqué la question de manière plus détaillée, pour n'importe quel motif, il faut qu'il donne toute la réponse de Jésus. Il y a quand même une exception, c'est l'infidélité. Donc vous voyez, il explique ça mieux parce que les Juifs, ils vont regarder tous les détails. Marc, qui écrit pour les gens probablement à Rome, la plupart ne sont pas juifs, saute certains détails. Okay? Mais pour deux raisons, les lecteurs du premier siècle, et surtout les Juifs, auraient su tout de suite, et les gens qui sont rentrés dans la foi chrétienne, ils auraient compris que l'adultère est toujours une exception. Première raison. Dans la loi de Moïse, qu'est-ce qui arrive à une personne qui commet l'adultère? La personne subit la peine capitale, selon la loi de Moïse. Donc, on a un divorce par exécution. Le mariage est rompu parce que l'époux adultère subit la peine capitale, une punition légale. Donc, l'adultère mène toujours à un divorce. OK? Deuxième raison, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu lui-même a divorcé Israël à cause de son infidélité. Dieu ne fait ce qui est légitime. Et pour cette raison, les Juifs prenaient pour acquis que l'infidélité était une cause légitime de divorcer. Ok, bien, donc ça c'est la première chose. Jésus dit que le divorce légitime à cause d'infidélité est une réponse juste mais triste à l'adultère qui a déjà rompu le lien du mariage. Mais il dit aussi que le divorce illégitime mène à l'adultère. Le divorce légitime est une réponse juste à l'adultère. Le divorce illégitime, il n'y a pas eu d'infidélité, et tu vas quand même répudier ta femme, ça mène à l'adultère de 4 personnes probablement, qui vont épouser d'autres. Maintenant, il faut que nous terminions ce message en disant qu'il y a quand même un autre passage qui apporte une chose de nouvelle dans cette situation de mariage et de divorce. Et ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Pourquoi? Parce que après Jésus, après sa mort, sa résurrection, la Pentecôte, dans l'ère chrétienne, une nouvelle situation arrive qui n'était pas présente au temps de Jésus. On n'a plus une nation qui est le peuple de Dieu, et tout le monde qui est juif fait partie de ce peuple de Dieu. L'évangile va dans tous les coins du monde, et parfois, voilà un couple païen, et un des deux se convertit. Et parfois, le partenaire qui ne se convertit pas au christianisme prend en haine son conjoint à cause de sa nouvelle foi. Et 1 Corinthiens 7 adresse cette situation. Est-ce que le divorce, parfois le conjoint non chrétien répudie ou divorce sa femme à cause de sa foi qu'il ne peut pas supporter? Donc nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 12 ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul veut dire, vous n'allez pas trouver cet enseignement dans l'Évangile. C'est pas le Seigneur qui l'a dit de son vivant. C'est moi qui le dis par le commandement du Seigneur maintenant. Il n'est pas en train de dire il y a une partie qui est du Seigneur et l'autre partie c'est humain. Il n'est pas en train de dire ça. Les deux, il est en train d'ajouter quelque chose à ce que le Seigneur dit dans les Évangiles. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, un frère, un chrétien, a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Faut pas que les chrétiens pensent que maintenant que je suis converti, ma femme est souillée parce que elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas souillée. C'est ta femme. C'est ta femme, vous êtes un, vous restez un, d'accord? Et si une femme, verset 14, « Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints. » Je ne vais pas expliquer ce verset parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a une influence du partenaire croyant sur le partenaire non-croyant, tant que vous êtes ensemble, et sur les enfants.
Si le non-croyant, regardez bien le verset 15, si le non-croyant se sépare, et le mot en grec se séparer est un mot qui signifie divorce. Ok? C'est pas la séparation qui n'est pas divorce, c'est divorce. Se quitte. Il quitte sa femme, il répudie. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc, la femme n'est pas liée, le mari n'est pas lié, ça veut dire qu'il est libre, donc, d'aller épouser un autre. Ok? Vous pouvez vérifier ça en regardant le début de Romains 7, que le concept de lié ou pas lié signifie capable d'épouser un autre ou non. C'est ça que ça veut dire, lié ou pas lié. D'accord? Si tu es lié à l'homme, ça veut dire l'alliance liée reste intacte et tu ne peux pas épouser un autre. Si tu n'es pas lié, ça veut dire que cette relation a été légitimement rompue et tu peux épouser un autre. Ok? Donc, je résume. On va prendre le cas de deux chrétiens. Et nous pouvons dire quatre choses. Le divorce n'est jamais désirable entre deux chrétiens. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Deuxièmement, le divorce n'est jamais inévitable pour deux chrétiens. Parce que vous avez les ressources en Christ pour vous pardonner, pour vous repentir de ce qui a agacé votre conjoint, n'est-ce pas, pour rebâtir votre mariage si ça va pas bien. Troisièmement, le divorce est permissible entre deux chrétiens seulement en un cas, le cas des pornéas d'adultère, ou d'autres péchés sexuels. D'accord? Deux chrétiens. Ok? Je vais nuancer tout à l'heure. Quatrièmement, le divorce n'est jamais obligé. Même dans le cas de pornéas, un couple chrétien, parfois, arrive à surmonter et ne pas divorcer et retrouver, parfois, même une intimité plus grande qu'avant. La personne qui a été infidèle se repent profondément, change plus profondément à cause de son péché, et les deux peuvent recoudre leur mariage. Je connais deux cas où un mariage est meilleur maintenant qu'avant... Et une infidélité a eu lieu. Ok, ça c'est pour le cas de deux chrétiens. Le cas d'un chrétien et un non-chrétien. Premièrement, le divorce n'est jamais désirable. 1 Corinthiens 7 dit « Ne répudie pas ton conjoint s'il consent de vivre avec toi. » Le divorce n'est jamais souhaitable. Deuxièmement, le divorce est parfois inévitable, car les deux conjoints n'ont pas tous les deux les ressources spirituelles pour résoudre les problèmes. Vous avez une personne non-croyante, non-chrétienne, et cette personne va, sans la conversion, cette personne va jamais surmonter les problèmes qui sont là. Je vous explique, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas permis par Dieu, mais parfois, ça va arriver à cause de la dureté du cœur. Troisièmement, le divorce est permissible en deux cas quand on a un couple mixte. Le cas de pornéa, d'accord, s'il y a eu adultère, par exemple, ou bien le cas d'abandon. Ça, c'est 1 Corinthiens 7. Si le conjoint non chrétien se sépare parce qu'il ne peut pas supporter d'être marié à une chrétienne ou à un chrétien, qu'il se sépare. D'accord? Tu n'es pas lié. Tu peux divorcer dans ce cas. J'ajouterai juste cela, parce que les gens posent la question. Et qu'en est-il dans une situation où un mari bat sa femme? Ou bien un mari s'en va? Il revient tous les 6 mois. Des cas de figure comme ça. Il me semble que d'après Exode 21, les versets 7 à 11, et 1 Corinthiens 7, et on peut discuter ça après, que cela tombe dans la catégorie de l'abandon. Ok? Pour cette raison, quand ton mari te bat, tu es obligé de fuir sa présence pour ta vie. D'accord? Alors, il rend impossible que vous viviez ensemble. C'est une sorte d'abandon. N'est-ce pas? Il y a un abandon. Il a obligé une situation où vous ne pouvez pas vivre ensemble. La même chose s'il ne subvient pas à tes besoins, s'il vagabonde pendant 6 mois, c'est qu'il ne consent pas de vivre avec toi. Il n'est pas en train de vivre avec toi, il est en train de t'abandonner, même s'il revient de temps en temps. Donc je crois que dans les décrets de certaines dénominations, ce cas de violence maritale et ce cas de mari, par exemple, qui vagabonde comme cela, sont interprétés comme un cas d'abandon, comme celui de 1 Corinthiens chapitre 7. Donc je crois qu'il est bien, il est bien possible et légitime, il me semble, de divorcer pour la cause d'adultère, pour la cause d'un conjoint non chrétien qui s'en va, pour la cause d'un conjoint non chrétien qui te bat ou qui ne consent plus vraiment à vivre avec toi. Si cette personne se dit chrétien et il te bat, qu'est-ce qui arrive? Simplement, la discipline ecclésiastique qui va mettre en question la conversion de cet homme. Et s'il ne se repent pas, il sera excommunié et considéré comme un non-croyant, et puis on se retrouve dans le cas d'un mariage mixte. Voilà, tout simplement. Le divorce entre un époux chrétien et non-chrétien est obligatoire en un seul cas. Si l'époux non chrétien insiste à abandonner le mariage. Parce que le texte nous dit, s'il se sépare, qu'il se sépare. D'accord? Il n'est pas bien de la part d'un conjoint chrétien d'insister que le divorce n'ait pas lieu lorsque le conjoint non chrétien insiste. À divorcer. Non-chrétien insiste à divorcer. Mais bien sûr, il faut tout tenter avant d'en arriver là. Il faut tout tenter. Mais s'il se sépare, c'est-à-dire s'il divorce, s'il le fait, qui le fait? C'est-à-dire accepte ce fait. Avec tristesse, avec larmes, avec tout le brisement que ça signifie. La meilleure chose, c'est de rester célibataire, si possible, en espérant qu'un jour, tu vas retrouver ce mari ou cette femme. La personne va se convertir. Ou si c'est un divorce entre chrétiens, parce que ça peut arriver, un mauvais divorce, un divorce illégitime. Ne vous remariez pas. Restez célibataire en disant que ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. Je prie que le Seigneur agisse pour qu'on puisse se retrouver un jour. Ça c'est dans les meilleurs des cas, n'est-ce pas? Mais parfois, même les chrétiens divorcent. Bien sûr, et de plus en plus ils divorcent, ceux qui prétendent être chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Et parfois ils se remarient, ce qu'ils ne devraient pas faire. Parce que dans le texte d'un Corinthiens 7, Paul dit que si une femme ne doit pas répudier son mari ou un mari sa femme entre croyants, mais s'il la répudie, qu'il n'épouse pas un autre. D'accord? Parfois, les chrétiens font tout ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des couples divorcés, recomposés, remariés dans l'Église? Tout simplement, on leur annonce l'Évangile. Le divorce n'est pas le péché impardonnable. Le divorce n'est pas le péché impardonnable. Nous avons tous fait de très mauvais choix dans la vie. Et nous pouvons appeler ces couples-là à reconnaître que nous avons très mal fait. Et nous avons péché contre nos anciens conjoints et contre Dieu. Nous pouvons les appeler à se repentir en parlant à l'ancien conjoint, en demandant pardon et en demandant pardon à Dieu. Et nous pouvons les assurer que ceux qui se repentent sont pardonnés. Ils ne sont pas des chrétiens de deuxième classe. Ils peuvent maintenant continuer leur vie sous la faveur de Dieu, le Dieu qui pardonne aux pécheurs. Voilà. Donc, il y a d'autres questions, mais cela, il faut que nous discutions ça informellement. Donc, si vous avez des questions à poser, peut-être on peut discuter ça à un moment donné. Une question très difficile, et je suscite sans doute plein d'interrogations dans votre tête, mais je vous ai quand même donné les lignes majeures de l'enseignement. Le divorce n'est pas voulu par Dieu. On ne doit pas divorcer, sauf pour cause d'infidélité. Et même là, on essaie de ne pas, ou cause d'abandon. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bien, nous allons chanter pour tourner nos cœurs vers le Seigneur et vers la scène.